qu'on attend des... juste une minute. Juste une minute. Oui, oui.
Une question enfin, générale sur la, le raisonnement fait à propos donc, de la Braïta d'hier. Enoni et Palel, l'homme est sorti, l'homme est sorti par Halukot. Et opposé à Halukot Souple. La différence qu'il y a finalement entre une Halakha Psouka, prononcée en époque moderne, pour que les gens ont connu.
En prononciation, c'est pas là.
Chaque anglais essayait, bon. Pour les haïnes, je garantis rien. finalement, Passac, ça veut dire trancher, en fait, logiquement. Diviser un pasouk, une Torah, une halakha psouka, une halakha trancher. Or, il semble, pour aller vite, que la différence qu'il y a entre un bar halakha une halakha psouka, c'est que la halakha psouka est tranchée a priori, il n'y a pas de discussion, elle est immédiatement tranchée.
Pas a priori, c'est-à-dire après la discussion, on a fini par se mettre d'accord et la halakha est tranchée.
Alors encore mieux, alors. Donc, de toute façon, la halakha résulte d'un accord unanime,
oui.
Alors que dans le bar halakha, il y a discussion entre différentes possibilités. Bon, de même, le din, en réalité, il y a le jugement. Le jugement a été fait, mais il y a eu d'abord contestation. Or, en réalité, si l'on dit que Yitpalel, il s'agit de l'amida, bien entendu, il s'agit donc de demander à Dieu de changer éventuellement sa conduite providentielle à mon égard, et par conséquent, il faut qu'il y ait mérite pour cela, en tout cas, c'est dangereux. On pourrait faire donc le raisonnement à partir de ces prémices inverses, en disant si il y a possibilité de din, c'est-à-dire qu'il y a différentes possibilités d'interprétation de la part de l'homme, et que c'est le bendin par rapport à la Torah, dans la Torah, va, entre des tzadikim, décider lequel a le mieux, est le mieux en accord avec la Torah. Dvar halakha, Elou ve Elou divrei Elohim hayim, mais on décide laquelle des différentes possibilités est la plus adaptée, puisque c'est le dessein de l'Esprit vient de Dieu, et c'est Israël qui décide comment le dessein de Dieu va être appliqué par Israël dans les conditions dans lesquelles il se trouve. Donc quelle est donc la halakha qui est non pas la plus vraie, mais celle qui est la plus réelle, la plus adaptée à Israël.
Halakha les masses.
Bon, d'accord. On pourrait donc dire à ce moment-là, moi aussi, c'est cela justement, ce sont le din, l'existence d'un din, et l'existence d'un halakha qui vont me donner la possibilité de prier. Je dis, je sais, moi, par définition, Dieu sait ce qu'il fait. Mais je me dis, je peux poser la question à Dieu. Moi, j'ai l'impression que j'ai besoin de quelque chose maintenant. Grâce au fait qu'il existe din et qu'il existe var halakha, eh bien, il y a donc plusieurs possibilités. Je vais demander à Dieu, est-ce que par hasard, dans le maasé actuel, Dieu ne considère pas qu'il peut changer la cause. Par contre, si je prends le raisonnement d'hier, j'aboutis, semble-t-il, à une impasse totale pour la prière, puisque si je ne peux prier qu'à partir de halakha psouka, c'est-à-dire que de toute façon, je ne peux admettre que ce qui est tranché, de quel droit, comment est-ce que je peux prier Dieu? On a l'impression que ça bloque complètement la possibilité de prière, sauf dans un cas précis. Sauf si je considère que de toute façon, je n'ai pas le droit de demander à Dieu de changer quoi que ce soit, que je peux seulement, et un petit peu d'ailleurs, ce qui se fait, semble-t-il, dans la Amidah à prière collective, renvoyer à Dieu les propres paroles de la Torah telles qu'elles ont été réécrites par les Chachamim pour lui rappeler simplement ce qu'il nous a promis et lui demander donc d'être fidèle à sa promesse. Mais là, il n'y a plus jugement, il n'y a plus la question du mérite. Donc,
mais c'est-à-dire que le point de chute de ton raisonnement parle déjà d'un autre sujet. Là, tu es passé dans une toute autre conduite de prière qui n'est pas la tefila. Et je vais simplement reprendre la définition du sujet. C'est-à-dire, parmi tous les rites oraux possibles, la avodah shevalev possible, cette avodah shevalev qui s'appelle la prière, en français, c'est le rite de demande. Mais il y a 10 conduites différentes. Vous savez, les Mefarshim le citent à propos de Vayet Hanan, de la sidra de Vayet Hanan. Prenons par exemple le cas de la Techina. C'est une prière. Ithanenut, comme Ithpalelut, c'est aussi un barbarisme. C'est une prière qui consiste à demander en grâce, sans qu'il n'y ait référence à l'éventualité d'un mérite, donc à la nécessité d'un jugement. Ici, nous parlons d'une conduite très particulière de la prière qui s'appelle Tefila, pas n'importe quelle autre. Alors, la stratégie liturgique que tu proposes à la fin de ton raisonnement nous renvoie par exemple à la Techina, mais ici nous sommes dans la Tefila.
C'est ce que j'ai dit, il y a contradiction, semble-t-il, puisque nous sommes en Tefila et qu'il y a jugement et zefrout, ça ne va plus avec.
Donc, c'est-à-dire que ton raisonnement est assez pessimiste. Tu voudrais dire ceci, c'est que cette stratégie de la prière reliée au mérite, donc au jugement, n'a aucune chance d'être exaucée.
Non, grosso modo, c'est ce que. J'ai l'impression que cette Braïta limite. Dans le raisonnement que j'ai fait tout à l'heure, la possibilité de la tefila, de quel droit je vais mettre à prier, puisque j'aurais cru normalement que parce qu'il y a mitor din ou mitor varalaha, je peux prier. Est-ce que là, si on me dit non, alors moi, je peux prier si c'est bloqué, de quel droit
vais-je mettre à prier? Mais voilà où il y a du pessimisme, parce que tu ne crois pas à la halakha psouka.
Si.
C'est ça le fond du problème. Oui. C'est-à-dire, voilà, et je vais essayer de donner dans une image. Si je présente ma demande, tout de suite il y a un Beit Din en haut qui va se mettre à juger. Oui. Et alors, tant que je suis dans une expérience de délibération du Beit Din, ce Beit Din peut siéger jusqu'à la fin de l'éternité sans décider pour moi, parce que je n'aurai jamais plus de mérite que de démérite. Il y aura toujours un accusateur qui viendra dire non, il ne mérite pas à cause de ça, alors qu'il y aurait un paraclète, un avocat qui dira. Oui, il mérite pour ça, mais cette discussion, elle peut durer jusqu'au-delà de l'éternité sans qu'elle soit tranchée, à moins que j'ai cette stratégie possible de référence à Halakha Psouka. Et la Halakha Psouka est de Midat HaRachamim beaucoup plus que de la délibération de Midat HaDin. C'est pourquoi nous parlons de la Torah applicable que nous avons pu recevoir, elle dévoilée à nous, jusque nous, dans la réalité, en disant Rahamana. Lorsque nous citons la Torah, mais qu'elle est vraiment à notre portée, alors on dit « Rahamana Amar ». C'est précisément cela le problème. C'est-à-dire, tout ce qu'il fallait découvrir, c'est d'abord inverser l'ordre des évidences. Et j'en ai parlé un peu au début du cours hier. Dans les évidences auxquelles nous sommes habitués, dans la sensibilité religieuse de la culture contemporaine, au contraire, du fait qu'il y ait din, du fait qu'il y ait de varalacha, c'est un appui pour moi au nom de la sincérité des deux opinions, etc., de faire surgir ma demande. Mais ici, la Braïta nous inverse tout cela. Non, cela, c'est contradictoire avec le fait qu'un psak puisse m'être donné d'en haut, oui, tu mérites ce que tu demandes. Et alors, encore une fois, à la fin, tu arrives à une conclusion, mais qui concerne une toute autre stratégie. Le véritable problème est de savoir si la tfila comme telle, c'est-à-dire demande reliée à l'éventualité du mérite, est praticable ou pas. La réponse que nous avons par la tradition, c'est que dans tous les cas, il faut se mettre à l'abri de la collectivité. Parce qu'au niveau de la collectivité, il n'y a pas de problème. Et au niveau de la collectivité, je suis à l'abri du mérite du tzaddik qui est Israël en général. Dans le sens de l'expression que nous citons souvent dans la Mishnah, « Ve'amer kulam tzaddikim ». Alors, nous verrons qu'il y a, peut-être je vais prendre ce thème tout à l'heure, il y a une liturgie préalable au fait d'entreprendre la tefila comme telle, qui est instituée par Rabbi Yochanan, et qui est la récitation du premier verset qu'il y a avant la tefila. Adonai sefatai tiftar v'yagit ilatecha alav dalat nun yud. Et nous allons l'étudier dans le commentaire de Rashi. Est-ce que nous avons ici un Tanakh avec Rashi? Vous savez rien, je le citerai. C'est le psaume 53. 52 51 quel psaume 51 et nous verrons ce verset. Il y a une qui s'appelle Tfila Arichta. Il y a toute une liturgie qui ne consiste que dans un verset qui me permet de m'introduire à l'échelle individuelle dans la Tfila collective, et nous verrons que cette Tfila Arichta, elle est en elle-même un rite de kapara, c'est-à-dire qui me donne le droit de me ranger parmi les tzadikim. Nous allons essayer de le voir assez en détail. Mais pour la question que tu as posée, c'est ceci. Premièrement, la Braïta nous enseigne que tant que je suis dans l'expérience que dans mon monde il y a machloket, je n'ai pas le droit de commencer la tefila. Il faut donc, étant donné que c'est l'état habituel, banal, nous sommes toute la journée, kolayom, en machloket. Il faut rupture avec cette situation d'expérience de machloket, passer par, dans le cheminement spirituel intérieur, passer par une expérience où je m'assure, puisque je me rassure, il peut y avoir halakha psouka, il y a halakha psouka, alors ça me donne le droit de présenter la demande. Je crois qu'avant toute chose, il faut comprendre ça dans une sorte de définition du type de sensibilité spirituelle que ça représente. Je vais vous donner un autre exemple dans ce même domaine. Je m'excuse de prendre un exemple un peu funèbre, mais enfin, c'est Bolet. C'est beaucoup plus évident. En tout cas, je me base sur les kavanot du rite sfaradi. Et nous avons dans les liturgies de l'enterrement, on lit, après la bracha de l'entrée au cimetière, avant le tekes, le cérémonial de l'enterrement, on récite la deuxième bracha du Shemoneh Esrei, les Gevurot. Ata, Gibor, Leolam, Adonai, Alef, Dalet, Yud. D'ailleurs, ici aussi, c'est pas le mot de Hachem qui est écrit. Mais le chazan, enfin le shaliach tzibur, celui qui fait le cérémonial, ne dit pas la khatima avec le shema vaya. On finit en disant Baruch mechayi hametim, mais on ne dit pas Baruch ata Hashem mechayi hametim. Pourquoi? Parce qu'il y a contradiction spirituelle entre le fait que je suis en train de dire mechayi hametim et que le mort est la mort devant moi. C'est un devar sheker, okay? Ou dans l'instant. Vous voyez, il y a une sorte d'impossibilité spirituelle qui serait, parce que la contradiction est blasphématoire. Pendant que le mort est là, et je dis que Dieu ressuscite les morts, mais voilà, il n'est pas ressuscité. Alors je ne peux pas me référer à Baruch Ata Hashem Mechayi Hametim, je dois dire Baruch Mechayi Hametim. Est-ce que c'est suffisamment clair, bien que trop en hébreu? Il y a une sorte de, si vous voulez, de sensibilité spirituelle très précise, hébraïque, qu'il faut récupérer. Je comprends très bien qu'il puisse y avoir une ambiance culturelle où ce serait le contraire. Dafka, devant le mort qui est mort, je dis que mon Dieu est celui qui ressuscite les morts. Ça, c'est goy. Vous comprenez, la Torah dit mitdevar sheker tirhak. Il ne faut pas s'introduire dans une situation de contradiction spirituelle. Encore un autre exemple, celui-là beaucoup plus bienheureux. Au moment de la bar mitzvah, le père dit une bracha à la Torah en remerciant Dieu d'être quitte de la responsabilité qu'il avait de son enfant qui était bar chinur jusque-là. Au moment où l'enfant est par lui-même bar mitzvah, alors il dit baruch. Mais il n'est pas Baruch Ata Hashem. Pourquoi? Précisément parce qu'il y aurait encore contradiction spirituelle de ce point de vue-là. Alors, je crois qu'il faut quand même mettre cela en évidence. C'est un grand chidouche dans cette Braïta. Un homme préoccupé par ce problème, il y a machloket. Il y a machloket entre les tzadikim, il y a machloket entre les rabbanim. Et taroud, comment dire, taroud, on dirait en français tarodé. Par ce souci, enfin, Tarou préoccupé par ce souci, se mettre devant Dieu et dire au nom de la Torah que tu nous as donnée, je demande un jugement pour savoir si je mérite. C'est contradictoire. Là nous sommes peut-être entrés, c'est pas on n'a pas mis l'accent hier là-dessus, mais grâce à ta question, on peut le faire, dans un problème d'investigation de l'expérience spirituelle que ça représente. Il faut évacuer cette contradiction. Et ne croyez pas que c'est un problème théorique. Parce que, indépendamment du fait qu'il est ici relié au fait de prière, c'est un problème objectif en soi. Le Gemara, dans plusieurs endroits, et en particulier le Gemara de Hagiga, étudie en lui-même. C'est-à-dire, nous nous présentons dans l'histoire du monde en disant Torah, Tziva, Lanou, Moshe, Morasha, Kilat, Yaakov. Nous. Et puis, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire qu'il y a une histoire de l'homme, mais nous avons un mode d'emploi. Nous avons une règle de la conduite. Et voilà que dès qu'on pose une question et comment agir, alors tout de suite, machloket. Okay? C'est un problème énorme en lui-même. Alors la Gemara ici veut nous faire comprendre tout de suite, oui, mais il faut bien comprendre que le caractère permanent de la machloket n'est que sous-jacent. En réalité, nous vivons au niveau de halakha psouka. Et s'il n'y a pas halakha psouka, alors plus rien n'est communicable entre le ciel et la terre. Ça veut dire que une Torah ne se révèle pas, parce qu'une Torah qui ne se révèle pas halakha le maase, c'est une Torah qui ne se révèle pas. C'est une Torah que, à la limite, je pourrais contempler, mais pas prendre comme règle de vie. Et donc, s'il n'y a pas communication de haut en bas, il n'y a pas non plus communication de bas en haut, c'est-à-dire la prière. Le pont qui est jeté, cette échelle, comme certains midrashim nous le montrent à propos de l'échelle de Jacob, et qui est à la fois, vous verrez les midrashim dans le Torah Shlema d'ailleurs, dès que Jacob est capable de rêver, alors il y a une échelle, et cette échelle, les midrashim nous disent, entre autres, c'est le Sinaï. C'est-à-dire, il y a donc communication, et la Torah vient de haut en bas. Mais c'est aussi le Beth Amikdash, et la Tfila monte de bas en haut. Et peut-être que le Pshat montre bien, l'accent du Pshat est peut-être plus sur la Tfila que sur la Torah. Et puisque Malaché Elohim, Olim Veyordim, Bo. Je vous rappelle ce chidush que nous avions vu, et qui me plaît beaucoup d'ailleurs, à l'autre séminaire, l'année dernière. Et il ne faut pas lire Vayahalom Veyine Sulam Bahalomo, mais Vayahalom Az Hayasulam. Il est capable de rêver, alors il y a une communication entre le ciel et la terre, et cette communication est réelle, elle n'est pas dans son rêve. Et vous retrouvez d'ailleurs tous les midrashim à ce propos. Or, dans ce chalom, il y a, en général, capacité de la névoie et capacité de la tefila. Mais c'est chalom, sans sorte. Pas le rêve des... Pas parce que les petits pois étaient mal cuits. Mais le rêve qui donne, qui nourrit l'âme comme le pain nourrit le corps. Et cette capacité de rêve, c'est une capacité de névoie, une capacité de tefila. Au fond, il y a un seul rêve. C'est qu'il y ait une communication entre le ciel et la terre. C'est ça le rêve. Quel?
Mais quand on dit Elomitor Din, on ne se réfère pas au moment où il y a jugement, au moment où le jugement est prononcé.
Donc, ça, c'est à la Chapsouka.
Bon, justement, or, on ne sort, mais Elomitor, on n'a pas le droit de prier Mitor Din, tu as bien dit hier, en sortant du Beth Din.
Oui.
C'est donc là que se situe ma question. Une fois que je sors du Beth Din, le cas a été tranché.
C'est pourquoi nous avons besoin des Mefarchim, et tu verras d'abord Rachid.
Le cas a été tranché, ça veut dire que l'on pouvait. Je faisais le raisonnement pour voir s'il tenait, bien entendu, qu'on pouvait dire, puisqu'il y a eu jugement tranché, mais qu'il y a eu au départ contestation, ça me donne le droit de dire peut-être que moi aussi je peux
faire la question. Écoute, au fond, la différence.
La deuxième chose que je veux.
Attends, chaque chose à la fois, parce que sinon je vais m'embrouiller. La différence est au fond assez fine, mais quoique très importante. Et la Braïta met l'accent sur le fait que bien qu'il y ait marloquette, on peut en sortir. Toi, ce que tu dis là aurait tendance à nous inverser le raisonnement.
Oui, bien sûr.
Et à nous dire, non, c'est Dafka parce qu'il y a marloquette que j'ai droit.
On aurait pu dire, non, mais la Braïta me dit le contraire, n'est-ce pas? Oui. J'essaie de comprendre à quoi elle aboutit, en fait, puisque j'aurais pu faire le raisonnement inverse de la Braïta. Bien sûr, la Braïta existe. Mais je trouve qu'elle fait problème, en réalité, parce qu'on aurait pu dire, puisque il y a, nous sortons d'un din et qu'il a été accepté, c'est le tzadikim, donc il accepte.
Oui, non, mais écoute, voilà. Je vais te dire.
Je voudrais écouter la question accessoire pour répondre en même temps. Tu as dit hier que Rabbanan.
Je vais te dire pourquoi tu as un raisonnement de médecin. Tu as compris.
Et que Rabashi, que Baraitab, Rabashi était le greffier, n'est-ce pas? Bon.
De la Gemara.
Oui, mais Rashi quand même, Rashi dit des choses qui apparaissent très simples, qui apparaissent inutiles. Il dit que Masnissin mitor kovedrosh, que Braïta mitor halahapsuka. C'est-à-dire qu'en réalité, pour les rabbanim, eh bien, ils ne sortaient pas de halahapsuka. Il semblerait donc que kovedrosh, c'est pas la même chose que halahapsuka. C'est l'attitude, puisque el mitor kovedrosh qui est la Mishnah, et on n'y est pas, el mitor kovedrosh. Il n'y a finalement que Rav Ashi qui utilise la Braïta.
Pourquoi?
Pour la raison que tu as dit hier.
Oui.
Mais je veux dire que donc ce qui semblerait indiquer, et ça rejoint dans ma question finalement, que cette Braïta n'a pas été acceptée par le Rav, puisque eux continuent à se baser sur Kovet Roche, qui semble être une chose différente. Et Rashi, sur la Mishnah Kovet Roche, il dit que c'est
Achna. Quel? Donc, alors ça va faire l'objet de l'étude tout à l'heure.
Je veux dire que, donc en réalité, ma question était en même temps basée sur cette différence.
Voilà, d'accord. Cette deuxième différence, eh bien, nous allons la choisir comme étude tout à l'heure, mais je veux simplement une dernière phrase sur la première question. Pourquoi je dis comme ça un peu? C'est un raisonnement de médecin. Parce qu'il y avait la maladie et la guérison. Alors, la Braïta met l'accent sur la guérison, toi tu mets l'accent sur la maladie. Hein? Je sais bien qu'il faut qu'il y ait une maladie pour qu'il y ait guérison. Mais c'est pas ça qui est important. pas de maladie, pas de guérison et pas de maladie. Alors, s'il y a une maladie, l'important c'est la guérison, c'est clair. Voilà. C'est-à-dire, bon, il y a marloquette, ça c'est la maladie. Mais c'est pas parce que je vais avoir des maladies guérissables que je suis quelqu'un de bien. C'est quand j'ai pas de maladie que je suis quelqu'un de bien. Enfin, l'homme. Je pense que c'est clair.
Je crois que l'exemple n'est pas très bien adapté, puisque ici, la question, ce n'est pas une question de sincérité qui se pose, pas induire la maladie à la guérison, c'est le fait qu'il y a eu, avant le jugement, une apparente...
Voilà, tu m'as dit, voilà, on a fini par se mettre d'accord, c'est très bien. Non, c'est pas très bien. Il fallait d'abord ne pas avoir de querelle. Maintenant, si tu as une querelle, mets-toi d'accord. Mais c'est pas bien d'avoir à se mettre d'accord après une querelle.
C'est parce qu'il y a eu querelle et qu'on a dû se mettre d'accord que je pourrais dire, je me donne le droit
de... Alors là, tu as rejoint la braïta. Là, tu as rejoint la braïta.
Or, la braïta dit non.
Non, là, tu as rejoint la braïta. Étant donné que le contenu de notre vie, c'est ces marloquettes, okay, alors on a besoin de la chapsuta. Et qu'est-ce que tu as dit en fin de compte? Et là, on s'est rejoint. Qu'est-ce que tu as dit en fin de compte? C'est bien d'une marloquette qui a une issue.
Bien sûr.
Mais c'est sur...
Mais Zine, c'est ça?
Non.
Et l'homme est ordi.
Non, alors voilà quel est le problème.
C'est là où
voilà comment est le problème. C'est que j'y ai fait allusion par une phrase hier. Que cette braïta s'adresse au dayanim et au rabbanim. Parce qu'un dayan, là, il faut passer à un niveau d'expérience existentielle. Et quitter le problème de l'évaluation théorique. Un dayan... Eh bien, lorsqu'il est au Beit Din, il souffre des problèmes qu'on lui pose. Et il le vit existentiellement. Et bon, il a eu la consolation qu'on a trouvé un psak, mais il sait très bien que finalement le psak n'a pas empêché, qu'il y avait deux tzadikim qui ont souffert, et qu'il a souffert de cette souffrance, de cette expérience-là, il ne peut pas prier. Et par conséquent, bien qu'il ait donné le psak din, il y a encore taroud. Et tous les mefarchim emploieront ce terme, taroud. C'est moi j'ai dit tarodé, hein? C'est vraiment à quoi ça ressemble? Ça ressemble à l'interdiction donnée au Kohen de s'occuper d'enterrer les morts. Pourquoi? Parce qu'il est Kohen, sa vocation c'est la Kdusha, Chaya Olamim, Elokim Chaim, et vous lui allez lui demander de s'occuper du contraire, d'aller enterrer. C'est contradictoire, il ne pourra pas. Hein? Voilà, c'est à peu près le même genre.
D'ailleurs, dans Brachot, il y a la célèbre Mishnah. De la prière que faisait Rabbi avant d'entrer dans le Beit Din, qui montre bien.
Attends, de Rabbi Yossé. Que mes collègues ne.
Oui, c'est ça. Donc, qui montre bien l'état, effectivement, de tension extraordinaire. Ça rejoint ce que tu disais.
Je me souviens, j'ai vu un maître qui était Dayan. Il était cardiaque et il en est mort, d'ailleurs, le pauvre. Et puis, et il me disait un jour. Tu sais pas la chance que tu as de ne pas être Dayan. Moi, dès que le téléphone sonne, j'ai peur. Qu'est-ce qu'il y a encore? Oui, à peu près le problème. Alors, d'une telle expérience, on ne peut pas, à moins de faire semblant. Et alors, justement, ce que la Gemara refuse, c'est cette inauthenticité de la vie spirituelle. On ne peut pas faire. Une minute. On ne peut pas, si vous voulez, faire semblant de faire semblant. C'est-à-dire, c'est sérieux. Et donc, je crois que c'est ça le principe. Mais d'abord, chez Kertirhak. Je vous donne un exemple. Lorsque nous sommes habitués, je parlais de la question de l'obligation du rituel. Et nous sommes donc habitués à la relation au rituel comme une relation d'obligation. J'en parlerai tout à l'heure ou peut-être demain. Mais nous avons dans la Gemara pas seulement des braïtos, des mishnayot entières qui indiquent cela. Quelqu'un qui est vraiment préoccupé n'a pas le droit de prier. Parce qu'est-ce qu'il va dire? Je vais pouvoir quand même mettre la kavana. C'est pas vrai, tu ne pourras pas mettre la kavana. Et une tfila bli kavana, c'est que go blin shama. Par exemple, on dit quelqu'un qui attend un bateau et le bateau n'est pas rentré au port, il ne doit pas faire la tfila. Parce qu'il est préoccupé. Vous savez, là vient l'expression française, t'as toi le bateau. C'est tout à fait. Donc, c'était en Algérie, mais enfin, il y avait même une expression en judéo-arabe, quand on voyait quelqu'un préoccupé, surtout à la synagogue, alors on disait il attend un bateau de safran. Vous savez, le safran, c'est une épice très. Si vous voulez, je peux même vous dire comment ça se prononçait. Zafran. Enfin, c'est Renorak Zafrani. Bien, alors en tout cas, peut-être qu'on. Comment dire on...
C'est Rabbi Nokounia, dans la. Ben Akhtar. Non, mais on explique que c'était au Beit Din. Alors, j'avais une autre question qui est tout à fait différente. Non, mais c'est aussi une question.
Attends, ne nous amène pas jusqu'à Mincha, parce que quand
vous m'avez prié. Ça, exactement, ça suit Mincha.
Ah bon.
Question hier, aux trois prières, Arbit, Charit et Mincha, est-ce que c'est intentionnellement, je n'ai pas parlé de Moussa.
Non, c'est pas du tout intentionnellement. C'est tout simplement que c'était pas le sujet, mais je profite de ta question pour compléter. C'est-à-dire la correspondance avec les patriarches, c'est Shachrit Abraham.
Rejoins le séminaire la semaine dernière. C'est ma question, rejoins le séminaire la semaine dernière.
C'est exact. Shachrit Abraham, vous rappelez Boker, c'est la deuxième lettre du mot Abraham. Et donc Mincha, c'est Yitzhak. Tzahoraim, c'est la deuxième lettre du mot Yitzhak. Et Arbit, c'est Yaakov. C'est la deuxième lettre du mot Aïn, Yaakov. Et alors le Moussa correspond au trou de Yosef, avec d'ailleurs l'analogie des termes, et David, c'est la Néhila de Kippour une fois. Vous voyez, effectivement, ça rejoint le thème du séminaire de la semaine dernière. Bien.
Il y a une référence du verset des 55-18.
Oui, nous allons y arriver. Vous étiez deux à travailler là-dessus. Bien, nous allons y arriver. Écoutez, je voudrais commencer par vous lire un enseignement du Rav Nachman de Bratslav sur le sujet d'hier. C'est-à-dire ce fait dont nous avons déjà parlé, que la machloket, la réalité de la machloket, empêche la tefila. Et dans ce thème, le Rav Nachman de Bratslav commence par nous dire que Stam, la machloket empêche le dibour. Alors nous allons voir ce texte, ça va bien éclairer notre thème. Alors, je vous lis directement le texte. C'est dommage que vous n'ayez pas les peut-être à une autre fois, on fera un séminaire d'Arka sur le Rav Nachman de Bratslav. Voilà, je vous donne la référence. C'est dans la première partie du Likuté Moharan.
Likuté Moharan.
C'est Moreno à Rav Nachman. L'Ikoudim, c'est, disons, extrait, anthologie. Hein? C'est laquelle. Et c'est dans la première partie, et le paragraphe 239. On dit ceci. À l'idée, je peux dire ainsi, à l'idée Machloket, Yef Charles et Daber. Par le biais de, à cause de la machloquette, c'est-à-dire la divergence, controverse, conflit. Yif Charlé d'Aber, il est impossible de parler. Qui est Ikara Dibour, ou Michalom. Car l'essentiel de la parole procède de l'état de paix. Et nous avons là un verset qui est cité par le Rav, c'est le psaume 122, verset 8. Adaberana Shalom Bach. Vous voyez l'expression du verset, Adaberana Shalom. Alors, le pshat dans le verset, c'est quand on entreprend de se proposer de se parler de paix. Adaberana Shalom, que nous parlions de paix. Enfin, nous vivons ce problème actuellement, vous savez. Ici, le Rav prend un autre pshat. Adaberana Shalom, ça veut dire qu'il n'y a de dibour que de paix. Qu'est-ce que ça veut dire parler vraiment? C'est parler, non pas au sujet de la paix, mais parler du dedans, de la situation de paix. Alors le dibour est vraiment un dibour. Voici comment j'essaierai d'expliquer ça. Je peux certainement l'expliquer autrement. Vous savez que la définition de l'identité humaine, selon l'enseignement de la Torah, c'est Hayam Daber. C'est-à-dire, ce qui caractérise l'homme parmi tous les existants, c'est la capacité de parole. Je parle des créatures, bien sûr. C'est la capacité de parole. Hayam Daber. Or, la parole, c'est la relation sociale par définition. Et s'il n'y a pas relation sociale positive, c'est-à-dire relation de paix, il n'y a pas de parole possible. Bon, c'est tout le problème de la communication, du dialogue. C'est la même chose, dibour et shalom. Il n'y a pas d'autre mot que d'autres dibour authentique que la parole de paix. Le Rav Kook a l'habitude d'insister là-dessus. Et je crois l'avoir cité d'ailleurs plusieurs fois, c'est la manière dont deux juifs, lorsqu'ils se rencontrent, commencent à se parler en se disant shalom. comme s'il n'y a pas d'autre parole qui soit vraiment une parole. Et il insiste sur le fait que dans toutes les sociétés, on sait se saluer. Mais il n'y a que dans la descendance d'Abraham qu'on sait se dire shalom. Donc chez les musulmans aussi, salam. C'est pas la première fois qu'on va s'entendre ça. Ça commence d'après le Figaro de ce matin à Belleville. Je ne sais pas si vous avez vu cette katava. Et bon, c'est du journalisme, mais bon, et ils tiennent cela d'Abraham. Et par exemple, en français, on se dit bonjour, bonjour, c'est joli, on se souhaite un bonjour, mais paix, shalom, zemashuach. Ça, c'est plus important. Ou bien les latins se souhaitaient bonne santé, ce qui est très important, à Ecar Abriut, mais ils se disaient salve, salut, dans le sens de bonne santé. Et on voit bien que la préoccupation de chaque type de société s'exprime dans la formule du salut, puisque c'est le mot que nous disons en français, mais ce mot de shalom. Donc, Ikar Adibur Umi Shalom, Kemo Sheneemar, Adaberana Shalom. Ve'alken Sarich Kolechat, Kodem Atfila. C'est la raison pour laquelle chacun, avant la Tfila, avant la prière, Sarich Kolechat, Lekabel et Atzmo, Ala Atzmo,